Et les bords, minuit. De l'eau sur Mars.
De l'eau sur Mars, sur Et les bords, la nuit à partir de minuit, le secret.
Sur Et les bords.
Surprised every sunrise, the earth would have me back. Surprise my knees, hold me up, that it's not all gone black. And I'm sure by nightfall I will burn up all I have. So don't go out your way to make a good day bad. So don't go out your way to make a good day bad.
Le 16 mars 1939, Hitler fait cette proclamation. Pendant 1000 ans, les provinces de Bohême et de Moravie ont fait partie de l'espace vital du peuple allemand. La Tchécoslovaquie a prouvé qu'elle était fondamentalement incapable de survivre. Elle est réduite à un état de complète dissolution. Il est exact qu'au Xe siècle, soit 1000 ans plus tôt, Vaclav Ier, le fameux Saint Venceslas, qui dut faire allégeance au non moins fameux Henri Ier l'Oiseleur, à une époque où la Bohême n'était pas encore un royaume, ni le roi de Saxe à la tête du Saint-Empire romain germanique. Cependant, Vaclav put conserver sa souveraineté, et ce n'est que 3 siècles plus tard que des colons allemands s'installèrent massivement, mais pacifiquement, en Bohême. Pour autant, la Bohême a toujours joui d'un statut de premier plan au sein de l'Empire. À partir du XIVe siècle, le roi de Bohême fut l'un des 7 princes électeurs aptes à désigner l'empereur, parmi lesquels il possédait le titre honorifique de grand échanson. Il arriva qu'un empereur fut aussi roi de Bohême, le très illustre Charles IV, Luxembourg par son père, mais aussi Fémislide par sa mère. Moitié tchèque, moitié allemand donc, il fit de Prague sa capitale, y fonda la première université d'Europe centrale et remplaça le vieux pont Judith par le plus beau pont du monde, ce pont de pierre qui porte son nom encore aujourd'hui. Bref, il est exact que les pays tchèques et allemands ont toujours entretenu d'étroites relations Il est exact aussi que la bohème fut presque sans discontinuité dans la sphère d'influence allemande, mais il me semble tout à fait abusif de parler d'espace vital allemand à propos de la bohème. Quelques pages extraites de HHHH, roman de Laurent Binet, chez Grasset. Sélection du festival du premier roman 2011 à Chambéry.
I won't walk the swift stand. Il se demanda si le père avait déjà entendu le message. Il imaginait sa réaction quand il l'écouterait. Sa petite fille était vivante, mais ne voulait pas le voir. Elle disait qu'elle appellerait le jour de la fête des mères. 51 semaines à attendre. Le cher papa ne doit pas savoir à quel saint se vouer, pensa-t-il. À cette heure, les flics avaient certainement mis sur écoute le téléphone du docteur Andrews à Greenwich. Il imaginait leur affolement. Allait-il déclarer forfait ? Décider que Lisée avait le droit de vivre sa vie et cesser de la chercher ? Peut-être. Les gens avaient souvent ce genre de réaction. Il valait mieux pour eux. Dirait-il aux médias qu'elle avait téléphoné ? C'est la une des journaux qui m'intéresse, pensa-t-il. J'aime lire les articles sur Lisée Andrews. Ils savent depuis mardi qu'elle a disparu. Elle a occupé les premières pages pendant 3 jours. Mais aujourd'hui, les nouvelles la concernant sont reléguées en page 4. C'est frustrant. Il s'était passé la même chose avec les 3 autres filles. Au bout de 2 semaines, l'affaire était morte et enterrée. Comme elle. Je ferai ce qu'il faut pour que tout le monde garde Lisée à l'esprit, se dit-il. Mais pour l'instant, je vais m'amuser à balader son téléphone portable. Histoire de les rendre fous.
Thank you.
Passer ces événements par feuillets et produire un confortable petit carnet rempli d'anecdotes. On pourrait raconter cela jusque dans sa monotonie. Mais une journée de Chinois internés à Isola se dérobait au récit. Bien sûr, chacune avait sa linéarité et des accidents qui lui donnaient sa durée. Bien sûr, chacune avait ses rires, l'heure du lever, les horaires fixes, les visages croisés. Mais comme un affleurement le révélerait d'une montagne, ces vies encalminées semblaient stratifiées. Elles étaient des empilements, des couches dont les formes s'épousaient pour s'effacer mutuellement. Les débités étaient possibles, mais alors tout ce qu'elles avaient d'intime et de partagé, toutes les frontières et les frictions devenaient friables et se désintégraient. Le temps pouvait bien tenter de passer, il n'avait pas prise, il n'était pas le maître. Il ne pouvait rien contre leur stupéfaction et leur détresse d'être là, loin de chez eux, par choix ou par contrainte, sans pouvoir résoudre cette contradiction qui était un venin poisseux en chacun, quitter la Chine, s'agripper au lointain pour espérer vivre, prendre un bateau à ses fins, débarquer un jour à Naples. C'était une chose. C'était donner sens à sa vie et tracer un axe. Mais se retrouver ici dans les Abruzzes, parce que la planète implosait, parce que quelqu'un quelque part avait décidé qu'être chinois, c'était être un ennemi potentiel, cela les dévastait. le peu de sens qu'avait été un matin de prendre un bateau pour l'Europe, d'avoir fermé les yeux pour ne pas voir la dernière pastille de Chine disparaître, tout ce sens, toute cette petite liberté d'homme qui avait consisté à marcher sur ce ponton des départs, toute cette prétention à être un homme n'importe où sur la planète, tout était balayé par ce confinement qui criait silencieusement sous le sasso qu'on était chinois, qu'on était ferré, qu'on était autre. Quelques pages extraites du roman 116 chinois et quelques de Thomas Hems Huggus, sélection du festival du premier roman de Chambéry 2011.
de l'eau sur Mars, sur Elébor.
Je n'avais encore jamais eu l'occasion de connaître personnellement un champion d'échecs. Et plus je m'efforçais de m'en représenter un, moins j'y parvenais. Comment se figurer l'activité d'un cerveau exclusivement occupé, sa vie durant, d'une surface composée de 64 cases noires et blanches ? Assurément, je connaissais par expérience le mystérieux attrait de ce jeu royal, le seul entre tous les jeux inventés par les hommes, qui échappe souverainement à la tyrannie du hasard, le seul où l'on ne doive sa victoire qu'à son intelligence, ou plutôt à une certaine forme d'intelligence. Mais n'est-ce pas déjà le limiter injurieusement que d'appeler les échecs un jeu ? N'est-ce pas aussi une science, un art, ou quelque chose qui, comme le cercueil de Mahomet, entre ciel et terre, est suspendu entre l'un et l'autre, et qui réunit un nombre incroyable de contraires ? L'origine s'en perd dans la nuit des temps, et cependant, il est toujours nouveau. Sa marche est mécanique, mais elle n'a de résultat que grâce à l'imagination. Il est étroitement limité dans un espace géométrique fixe, et pourtant, ses combinaisons sont illimitées. Il poursuit un développement continuel, mais il reste stérile. C'est une pensée qui ne mène à rien, une mathématique qui n'établit rien, un art qui ne laisse pas d'œuvre, une architecture sans matière, et il a prouvé néanmoins qu'il était plus durable, à sa manière, que les livres ou que tout autre monument. Ce jeu unique qui appartient à tous les peuples et à tous les temps, et dont personne ne sait quel dieu enfidon à la terre pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit et stimuler l'âme, où commence-t-il ? Où finit-il ?
De l'eau
sur Mars, sur Hellebore.